là-dessus, on s'en va joindre l'amie Louise Véronique Sicotte. Comment ça va, Louise Véronique?
Ça va, Hélène. Ma voix est peut-être un peu différente ce matin, mais la volonté de transmettre ma chronique est toujours présente.
Ah ben, c'est ce qui est important, en espérant que votre voix revienne à la normale, mais on vous entend très bien. Alors, Louise Véronique, on va commencer par la plus précieuse des marchandises. D'abord, on va écouter la bande-annonce.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour...
Ça. Je ne sais pas à quelle espèce il appartient. C'est un sans-cœur. À mort, le sans-cœur!
Les sans-cœurs ont un cœur.
Plein d'émotions dans cette bande-annonce, Louise Véronique.
Et plein d'émotions dans le film au complet.
Ah oui, hein?
Oui, oui. C'est la première incursion dans les films d'animation pour le réalisateur Michel Azanavicius. Oui, c'est ça. Bon, on l'a connu parce qu'il a réalisé le film The Artist, qui a eu beaucoup de succès aussi, un film en noir et blanc.
Qui avait remporté l'Oscar.
Je pense que oui, je pense. Mais c'est sa première incursion parce qu'il en fait un film d'animation et c'est adapté d'un roman familial écrit par Jean-Claude Grumberg, paru en 2019. Donc c'est un conte familial qui raconte, comme on peut l'entendre un peu dans la bande-annonce, l'arrivée d'un bébé qui a été sauvé par un couple de bûcherons. Et ça se passe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la Shoah. Et ça raconte donc ce sauvetage in extremis d'un enfant jeté d'un train. Parce que le train où il se dirige vers un camp de la mort. Alors, c'est à la fois le sauvetage de cet enfant qui sera une bénédiction pour ce couple qui est très miséreux, un couple de bûcherons qui vit vraiment dans la misère, mais aussi, en parallèle, le couple qui s'en va vers le camp de la mort, que va-t-il lui arriver? Alors, en parallèle, il y a cette atrocité qu'est la Shoah et cette bonté de ces pauvres personnes qui vont sauver la vie à cet enfant. Alors, pour faire ce film d'animation, le réalisateur a pensé que c'était la meilleure façon de le réaliser avec l'animation, plutôt qu'un film avec des comédiens.
Pourquoi?
Parce que c'est très, très difficile de présenter la Shoah. Il y a eu beaucoup de films sur la Shoah, d'ailleurs. Mais quand on parle d'un film qui s'est inspiré d'un conte familial, donc un film qui s'adresse aussi aux enfants, il voulait plutôt suggérer que ce soit trop réaliste. Et d'ailleurs, Michel
Azanavicius.
Azanavicius, oui. Il a fait les beaux-arts, donc il aime dessiner. Et c'est sa première fois qu'il ose faire des dessins, qu'il ose mettre ses dessins à l'écran. Bien sûr, il a été entouré d'une grande équipe de collaborateurs, ouais. Mais c'est quand même ses dessins.
Il ose parce qu'il n'osait pas avant, il était quoi, il manquait de confiance en lui, ça me surprendrait.
Et il trouvait que le dessin était quelque chose de plus personnel.
Ah oui.
n'osait pas les montrer.
Par pudeur.
Par pudeur, exactement. Et il s'est inspiré de ce qu'on appelle les estampes japonaises. Donc, ce sont des dessins très épurés. Et ça montre, ça apporte beaucoup, beaucoup de nuances, beaucoup de subtilité au film.
Ça doit être beau.
Oui, on a entendu la musique aussi.
Oui.
La musique est magnifique dans ce film.
On n'est pas du tout dans le pompeux, le grandiloquent, le misérabilisme.
Oui, mais je pense que ça s'adapte bien à ce film aussi. C'est un... Oui, attendez, j'ai pas mes informations sur le cinéaste, pas le cinéaste, mais le musicien.
Okay.
Oui, c'est Alexandre Desplat, qui est lauréat de 2 Oscars, d'ailleurs, comme compositeur. Pensons aussi aux voix, parce que qu'est-ce qui donne de l'émotion à un film d'animation? Ce sont les voix, n'est-ce pas?
Oui.
Et on a entendu en tout début de la bande-annonce Jean-Louis Trintignant.
Oui, c'est assez troublant de l'entendre, lui, qui est décédé.
Oui, mais justement, Hélène, c'est qu'il fait le narrateur. Hein, donc, il narre l'histoire au début, puis aussi à différentes parties du film. Et ce qui est intéressant de savoir, et en plus très touchant, c'est qu'à l'époque où il a fait cette narration-là, c'est sa dernière apparition vocale d'ailleurs, il était aveugle.
Oui, c'est vrai, il avait perdu la vue.
Il ne pouvait pas lire le texte, alors il a appris à l'oreille, il a appris par cœur. Et pour le réalisateur, c'est une rencontre déterminante. Il avait d'ailleurs en tête la voix de Trintignant dès le départ.
Donc, ça fait longtemps qu'Azanavicius travaille sur ce film-là. Trintignant est mort en 2022.
Oui, en fait, depuis 5 ans. Oui,
c'est long, hein? Mais les films d'animation, c'est comme ça.
C'est très long, puis il y a eu aussi plusieurs difficultés aussi, là. Alors, c'est un film qui montre à la fois, comme je vous le mentionnais, les atrocités de l'humanité et aussi le côté lumineux de l'humanité. Alors, c'est un film... Bon, est-ce que le film s'adresse aux enfants et à partir de quel âge? Oui, c'est un conte familial dans le texte, dans le livre qui a été publié. Il y a quand même des scènes, bon, qui se passent dans le camp de la mort avec les charniers et tout. C'est quand même difficile à regarder. Mais en même temps, c'est aussi un film sur la mémoire. Hein. Il faut se rappeler ce qui a été fait. Alors, ça peut susciter une bonne discussion aussi avec les enfants.
Et puis, le conte a été écrit par Jean-Claude Grumberg.
Oui, oui. Et qui est d'ailleurs un ami des parents du réalisateur. Alors, ils se connaissaient bien.
Alors, c'est à voir. Donc, ça prend l'affiche bientôt?
Oui, vendredi. Vendredi, au cinéma Beaubien.
Merci. Vous le conseillez?
Je le conseille, oui. C'est un film très touchant.
Autre
film... C'est une animation. Et certain, parce que c'est de l'animation, c'est un film très touchant aussi.
Oui. Et c'est toujours beau à voir aussi quand c'est bien fait, là. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que les films d'animation, ça s'adresse seulement qu'aux enfants, mais c'est pas le cas.
Mais non, c'est pas le cas du tout.
Comme la BD en général. Ben pas en général, mais il y a des BD aussi pour les adultes. On passe maintenant à Prodigieuse, très beau titre, une réalisation de Frédéric Potier et de Valentin Potier. Est-ce qu'ils sont parents? Ça doit...
Son père et fils.
Ah oui! Alors, on écoute la bande-annonce.
Vous entrez dans une des meilleures écoles de piano du monde, il faut rien négliger. Montrez-leur qui sont les Valois.
Back home, your family, they think you're prodigious. Here, you're nothing.
Merci. Vous travaillez avec votre sœur?
Oui.
Rien ne me sert d'avoir une pâle copie quand on peut avoir l'original.
I will select the soloist.
Soliste, ça veut dire qu'au final, il n'y en aura qu'une qui jouera?
Encore! 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 Vous me trouvez dur? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ceux qui vous attendent dehors.
C'est quoi son problème? Elle le fait exprès?
Claire souffre d'une déminéralisation osseuse.
Vous lui donnez combien de chances de faire carrière?
Aucune. J'ai à vous parler.
Comment vous pouvez me faire ça? Je suis la meilleure.
Vous étiez la meilleure.
Claire, attends. Va te faire foutre! Je prendrai pas la place de ma sœur.
Parce que vous pensez que je vais la garder si vous dites non?
Claire a une sœur jumelle. Il faudrait qu'elle vienne faire des examens.
La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça, OK. Mais pas la musique.
Pense encore qu'elles vont faire carrière alors qu'elles peuvent même pas ouvrir une porte.
Une carrière peut-être pas, mais elles jouent.
Chez les Valois, on est les meilleurs. Ou rien.
Mais le piano, c'est toi qui leur as mis ça dans la tête, hein.
Ouais, pour en faire des reines, pas des bêtes de foire.
On n'abandonnera pas avant d'avoir tout essayé.
Du piano, mais aussi des tensions entre les personnes.
En effet, il y a beaucoup de tensions dans ce film. Premier long métrage de fiction du père et du fils, Frédéric et Valentin Poitier. On a l'impression d'habitude, quand on pense à deux personnes qui portent le même prénom, que c'est le même nom, ce sont des frères,
oui,
mais non.
Comme les frères Dardenne, exemple.
Et là, ce sont père et fils. Ils ont déjà fait d'ailleurs deux courts-métrages auparavant. Et là, ça rejoint également les mêmes thématiques, c'est-à-dire la musique, la différence et le handicap. Parce que comme on a entendu dans la bande-annonce, il s'agit de deux jumelles qui sont des pianistes virtuoses. Les deux réalisateurs se sont inspirés d'une histoire vraie, celle de Audrey et de Diane Plenet, qui, comme je vous le disais, sont des pianistes de grande qualité, de renom, mais qui ont une maladie orpheline qui affecte leurs mains. Ce qui fait qu'elles ne pouvaient plus jouer, en fait, selon les médecins. Mais avec leur ténacité, avec leur volonté de vouloir continuer à jouer, elles ont développé une technique qui est unique au monde, une technique très particulière. Ce qui fait que lors de leur concert, il y a deux pianos et elles jouent chacune sur leur piano et elles effleurent à peine les touches. En fait, elles jouent le même morceau, mais elles se partagent la partition.
Ah oui, ça se passe à deux, là.
Ça se passe à deux. Alors, les deux réalisateurs ont rencontré les jumelles. Ils ont été tellement impressionnés par leur histoire qu'ils en ont voulu faire un film de fiction et de se garder aussi une certaine liberté artistique.
Bien oui, on est au cinéma après tout.
Ben oui, mais en fait, les deux pianistes ont apporté beaucoup, beaucoup de détails à leur vie, leur fournissant vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et en collaborant pendant un an à la préparation du film. Dans ce film, les sœurs Plenet deviennent Claire et Jeanne Valois. Donc, on a changé leur nom, mais on a aussi changé l'époque. Quand ça se déroulait dans les années 70, ça se déroule maintenant dans les années 2020. Mm-hmm. Et le récit va se concentrer sur l'époque de leur adolescence, quand justement, elles sont acceptées dans une prestigieuse école de musique. Et là, les premiers symptômes de leur maladie se manifestent.
C'est cruel, hein?
Pardon?
C'est cruel, qui leur arrive.
C'est cruel, mais en même temps, elles ont la volonté, comme je vous mentionnais.
Elles sont résilientes.
Oui, résilientes, toutes les deux. Les réalisateurs voulaient absolument avoir, au départ, des vrais pianistes capables de jouer la comédie, mais non, ça ne s'est pas avéré. Ils n'ont pas trouvé les perles rares. Alors, ils ont fait un casting de comédiennes. Mais chose surprenante, c'est que les deux comédiennes qu'ils ont choisies sont dans la vie des grandes amies qui se connaissent depuis l'école secondaire.
Ce ne sont pas des sœurs, ce ne sont pas des jumelles.
Ce ne sont pas des jumelles. Mais bon, avec maquillage, avec coiffure,
trucage,
quand même. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de complicité qui apparaît à l'écran parce qu'elles se connaissent très, très bien.
Et qui sont les actrices? Est-ce qu'elles sont connues?
Oui, les actrices, Camille Raza et Mélanie Robert, des jeunes actrices françaises. J'aimerais en arriver aussi au choix des parents. Alors, il y a Isabelle Carré qui joue la mère et Franck Dubost. Franck Dubost joue le père. Franck Dubost est un humoriste français.
Bien oui. C'est drôle qu'on le voit dans cette distribution-là. Franck Dubost, est-ce qu'il s'en tire bien?
En fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un problème, non pas nécessairement par l'interprétation, parce qu'il joue un père extrêmement ambitieux, tyrannique, exigeant, lui-même un ancien champion d'apnée, là, mais qui est frustré. Alors, il dévolue sa frustration sur
ses filles.
Et je trouve que y a un problème là-dedans. Moi, je me suis sentie un peu mal à l'aise en me disant que cette époque-là de l'homme vraiment contrôlant et tout, peut-être que dans les années 70, ouais, mais là, je trouve qu'il y a une certaine complaisance.
Ouais, même dans l'attitude là, de l'enseignant qu'on voit, en tout cas que j'ai vu dans la bande-annonce, on se dit, il me semble que ça passe plus du tout aujourd'hui.
Et justement, alors ces deux personnages masculins-là, il y a une sorte de... Ils sont toxiques, en fait, envers les deux pianistes. Et puis, ça passe un peu comme dans du beurre dans le film. Alors, moi, j'ai trouvé que j'avais un malaise.
Ah oui, comme si c'était normal, que ce genre d'attitude-là. Là.
Exactement. Et en plus, le professeur a une sorte d'abus de pouvoir aussi sur la vulnérabilité sur ces deux pianistes. Alors, j'ai trouvé ça un peu décevant.
Malaisant aussi?
Malaisant, oui. Par contre, les deux comédiennes s'en tirent très bien. Elles ont suivi beaucoup de cours de piano aussi, même si elles ont des doublures. Mais c'est magnifique aussi de voir ce ballet des avant-bras quand elles effleurent les touches. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de musique dans ce film.
Quel genre de musique? C'est de la musique classique? Qu'est-ce qu'on entend des compositeurs connus?
C'est vraiment de la musique classique, là, les grands classiques. Mais on entend un peu de jazz aussi, parce que oui, il y aura une sorte de liberté qu'elles vont s'octroyer. Une va s'octroyer d'aller dans un café où on entend du jazz, où elle va vraiment s'essayer au jazz d'une très belle façon. C'est un film sur la musique, sur la résilience, mais comme je vous disais, mon bémol, c'est les personnages masculins.
Oui. Pas par leur jeu qui passe pas, mais plutôt par leur personnage, l'agressivité qu'ils ont en eux et qui fait souffrir, en fait, l'entourage.
Oui, c'est ça. Le père, va avoir un changement un peu radical d'attitude, mais un peu trop rapide, à mon avis, là. Ça manque de nuances.
Bon, ça manque de nuances, mais ça vaut le détour ou pas?
Je dirais que ça vaut le détour, mais c'est un film, je dirais, moyen.
OK.
Mais pour ceux et celles qui aiment la musique, qui veulent découvrir qui étaient les véritables aussi, qui sont les véritables pianistes, là, Audrey et Diane Plenet, moi, j'ai fait une recherche sur Internet et puis j'ai pu aller voir qui elles étaient. Et c'est quand même une belle découverte.
Alors, on se ferme les yeux sur les personnages masculins et puis on s'ouvre les oreilles quand on entend la musique. Il y a Dan Levy qui signe pas mal de pièces dans ce film-là, si je peux... que je constate, là, Dan Levy, quand j'ai tapé bande originale du film, là, puis le nom de Dan Levy apparaît, j'imagine que c'est peut-être lui qui joue du piano.
Je ne pourrais pas vous dire, en effet, mais... C'est possible, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de piano, puis évidemment, les mains, quand les deux pianistes jouent, les mains sont doublées, hein, évidemment. Mm-hmm.
On dirait que c'est lui aussi qui compose, mais ça va être à regarder, à vérifier. Et tout de suite, on y va, avant de se laisser, Louise Véronique, avec vos trois films coup de cœur en 2024.
Oui, bien, il y en avait tellement, mais bon, j'ai fait un petit choix rapide, là. Réfléchis quand même, là, Hélène.
Bien oui, à votre image, vous êtes une femme de réflexion, vous êtes une femme réfléchie.
Je sais. Perfect Days de Wim Wenders, avec l'acteur japonais Reina Ueda, qui a remporté le prix de l'interprétation masculine.
Ah oui, personnage qui travaille dans les toilettes.
Exactement, à Tokyo. Un film sur la simplicité, le bonheur simple, un film de contemplation. Un film qui fait beaucoup, beaucoup de bien.
Perfect Days, Wim Wenders. Est-ce que vous pensez qu'on peut le voir encore? Sur des plateformes?
Sur les plateformes.
Ouais.
Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce film et... Et je ne suis pas la seule.
Non, vous n'êtes pas la seule. Deuxième coup de cœur.
Emilia Pérez. Je pense que j'en ai parlé dans une précédente chronique. C'est un drame musical français réalisé par Jacques Audiard. Et le Festival de Cannes a...
Retenu
ce film, mais aussi toutes les actrices ont remporté le prix féminin d'interprétation.
Dans quel festival? Dans quel gala?
C'est-à-dire le Festival de Cannes.
OK, oui, d'accord. Parce que là, vous parliez des Oscars, là, j'étais un petit peu mêlée.
Le Festival de Cannes et aussi le prix du jury, aussi.
Paraît-il que les dialogues sont fantastiques, les images, le scénario est original. C'est Jacques Audiard qui a fait ça?
Oui, exactement. C'est un film musical aussi, donc un peu surprenant parce que tout à coup, on les entend chanter et on se demande qu'est-ce que ça vient là, faire dans le film. Mais c'est un film très musical avec Selena Gomez, hein, chanteuse
connue,
donc qui interprète un des personnages. Et aussi Carla Sofia Gascon, qui est une actrice transgenre et qui... c'est un film sur... mon Dieu, comment dire? Il y a tellement de soubresauts, de surprises dans ce film-là, mais c'est un film sur la transformation d'un personnage dans la cruauté jusqu'à la bonté.
Emilia Pérez, à voir, qui est toujours à l'affiche, film extraordinaire, paraît-il. Alors, on va avoir le temps, dans le temps des fêtes, d'aller au cinéma. Si on n'a pas le temps là, on n'aura jamais le temps, là, mais il faut prendre le temps de se déplacer parce qu'un film sur un grand écran, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus beau. Alors, le troisième coup de cœur pour vous.
Le dernier, un film d'aventure, hein? Le Comte de Monte-Cristo.
Ah oui. Je me souviens, vous l'aviez beaucoup aimé.
Oui, avec Pierre Niney. Film qui dure 3 heures, mais qui passe comme dans un... Je ne dirais pas un coup de vent, mais comme dans un coup d'épée.
mais pas dans l'eau.
Oui, un film historique qui raconte, bien sûr, la fabuleuse histoire du Comte de Monte-Cristo. Un film d'aventure historique avec un gros budget, quand même, et très, très bien réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Et surtout pour voir la performance extraordinaire de Pierre Niney qui se transforme. Donc, on le voit au cours de plusieurs années. On le voit aussi, c'est aussi une vengeance. Hein? La vengeance est un plat qui se mange froid et c'est exactement ce qu'on voit dans ce film.
Alors, c'est à voir, donc, le Comte de Monte-Cristo inspiré de Alexandre Dumas, de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Et on termine avec 3 films québécois qui vont sortir en 2025, à surveiller, donc.
Oui, à surveiller. Alors, le film Menteuse, qui est une suite de la comédie à succès Menteur.
Oui. Émile Gaudreau?
Oui, de Émile Gaudreau, oui. Le film avait remporté beaucoup de succès en 2019, hein. C'était avec Louis-José Houde, vous vous rappelez.
Oui.
Bertrand. Maintenant, le film va sortir seulement en juillet, mais bon, ça sera la comédie de l'été probablement. Et ça mettra en vedette Anne-Élisabeth Bossé.
Dans le rôle de la menteuse.
Oui, et Antoine Bertrand également.
Donc, à surveiller l'été prochain. Sinon,
il y a 1000 secrets, 1000 dangers. C'est une comédie dramatique qui est écrite et réalisée par Philippe Falardeau. Philippe Falardeau, on se souvient de Monsieur Lazare.
Mm-hmm.
Et c'est inspiré et adapté du roman à succès de Alain Farah, 1000 secrets, 1000 dangers.
Très hâte de voir ça. Ça sort quand?
Je ne pourrais pas vous dire.
Bon,
en 2025.
On va être attentif. Et le troisième et non le moindre. Et
violence, un drame.
Comment?
Violence.
OK.
Un film choral réalisé par Luc Picard, qui nous avait donné confession également. Alors, c'est un drame et dont l'intrigue va se dérouler à Montréal et à Paris. Et bon, ça promet aussi beaucoup parce que, comme on connaît Luc Picard, c'est à la fois un excellent acteur et un excellent réalisateur aussi.
Oui, c'est ça, pas son premier film, là. Il y a pas mal d'expérience à titre de réalisateur aussi.
Il nous avait donné confession aussi.
Entre autres... Et puis, il y en a d'autres aussi, là. De toute façon, on va pouvoir y revenir. Je ne sais pas s'il va engager son fils Henri pour jouer dans Violence, mais ça va être à suivre. Merci pour cette belle chronique pour finir l'année 2024, Louise-Véronique Sicotte. Portez-vous bien. Je vous souhaite que du bon pour 2025. De toute façon, on va se retrouver en 2025 et joyeux temps des fêtes.
Oui, joyeux temps des fêtes à tous les auditeurs et allez voir des films dans le temps des fêtes.
On va vous écouter. À bientôt.
Vous pouvez rejoindre